franceinter.fr.
Bonjour Nicolas Hulot.
Bonjour.
Donald Trump aux États-Unis qui promet, s'il est élu, d'annuler l'accord de Paris sur le climat. Nicolas Sarkozy en France qui relativise le rôle de l'homme dans le réchauffement et encore le nouveau gouvernement britannique et aussi le pouvoir polonais. Est-ce que, après toutes ces années de combat, de prise de conscience, est-ce que vous vous attendiez à un tel retour en force des climato-sceptiques ?
Non, mais dans ce domaine, le pire n'est jamais certain. C'est vrai que garder l'espoir aujourd'hui devient un peu un acte de bravoure, parce qu'on pensait au moins que Paris était un acquis et que le constat, le diagnostic était partagé. Évidemment, j'avais des doutes sur la mise en œuvre et la rapidité de la mise en œuvre, mais voilà, qu'un ancien président et accessoirement peut-être un futur président puisse tordre le cou à la réalité, mépriser ainsi la classe scientifique, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur parce que le sujet climatique n'est pas un sujet anecdotique. C'est un sujet qui conditionne tout ce à quoi nous sommes attachés les uns et les autres, qui peut saper les acquis de la démocratie, notre monde économique, et qui ajoute encore une fois de l'injustice à l'injustice, parce que les changements climatiques, au moment où on parle, pardon de le répéter, mais touchent des hommes, des femmes et des enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Donc voilà, c'est pas un sujet avec lequel on peut plaisanter.
Ça fait peur, vous parliez de Nicolas Sarkozy, mais comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est une posture populiste, anti-système, ou est-ce qu'il y a derrière ces discours des intérêts économiques ?
Il faudrait de lui demander pourquoi, en si peu de temps, il a changé à 180 degrés, puisque je suis bien placé pour être témoin qu'il avait des convictions affichées. D'ailleurs, preuve en est, ça s'est traduit notamment par le Grenelle de l'environnement sur ce sujet-là. Mon sentiment, mais ce n'est pas une conviction, c'est qu'il a tordu le cou à la réalité simplement pour de basses intérêts, calculs électoraux. Et c'est dommage parce que c'est un sujet, encore une fois, qui doit transcender les clivages politiques parce que de toute façon, la réalité va nous rattraper. On parle des réfugiés aujourd'hui liés au conflit, mais les réfugiés climatiques, les réfugiés liés à la désertification, ça sera une deuxième vague. Oui. Donc si on ne pose pas un bon diagnostic, si on nie la réalité, eh bien on sera encore une fois surpris d'une autre réalité qui va nous sauter à la gueule dans les années qui viennent.
Oui, mais c'est l'idée que participer à ce combat, ça demande des sacrifices, des efforts aux gens concernés. Donc c'est ça le calcul électoral que vous dénoncez chez...
Non, je ne sais pas. C'est désolant sur des sujets aussi importants, ouais. Simplement peut-être pour flatter une attente électorale, encore une fois, de nier la réalité qui a été partagée par 190 chefs d'État à Paris et que plus personne ne conteste. Voilà, je ne pense pas que ça soit si grave que cela parce qu'il y a quand même un processus qui est en route. Enfin, effectivement, si le scénario le pire, c'est que dans une Europe qui déjà sur ce sujet-là n'est pas aussi allante qu'elle l'a été, et si dans le même temps Donald Trump, enfin je ne peux pas me résigner à un tel scénario, revenait sur les engagements d'Obama, c'est vrai que dans une situation qui est déjà d'une gravité absolue, bon, on n'a pas besoin de ça, quoi.
Il y a un autre élément de programme aussi chez plusieurs candidats en France. C'est la volonté d'en finir avec le principe de précaution que Jacques Chirac avait imposé dans la Constitution c'était la Charte de l'environnement, pardon. Est-ce que c'est grave à vos yeux, Nicolas?
Mais oui,
Hulot,
parce qu'on a peu d'acquis sur un plan législatif, sur un plan constitutionnel. S'il y avait eu une utilisation abusive du principe de précaution, si c'était ce principe de précaution s'était opposé à ce à quoi certains sont attachés, l'innovation, on pourrait éventuellement se poser la question. Mais en réalité, il y a eu très très peu de jurisprudence. Et à l'inverse, si on avait appliqué le principe de précaution sur un certain nombre de sujets, sur l'amiante, par exemple, si on avait appliqué le principe de précaution simplement sur les changements climatiques, c'est-à-dire si on avait levé le pied avant, eh bien, nous ne serions pas dans des situations aussi extrêmes. Donc oui, c'est tragique de se dire que le peu d'acquis que nous avons, certains sont prêts à le remettre en cause. Et en revanche, à utiliser ce même principe de précaution et à le transférer dans d'autres domaines, notamment dans le domaine judiciaire, puisque j'ai cru entendre notamment l'ancien président de la République vouloir appliquer le principe de précaution en matière judiciaire, c'est-à-dire pouvoir mettre des gens, incarcérer des gens ou arrêter des gens avant même de savoir s'ils ont été des auteurs avérés de fait ou pas.
Pour des présumés terroristes ou pour des fichiers S en l'occurrence. Alors, ceux qui vous écoutent, en ce moment, Nicolas Hulot, ceux qui vous écoutent vous lamenter doivent se dire « Mais pourquoi il a renoncé ? Pourquoi avoir rendu les écolos orphelins d'une candidature incontestable ? Pourquoi se communiquer un soir de juillet à 20h alors qu'on attendait une décision en novembre ?»
comment dire les choses le plus simplement possible. Je ne me voyais pas entretenir un espoir, nourrir une promesse que je ne me pensais pas intellectuellement, psychologiquement et logistiquement capable de tenir.
Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Logistiquement, il y avait quand même logistiquement, une équipe de 40 personnes déjà
que
vous aviez mise en place.
Il y avait une multitude de gens d'horizons très divers, d'une grande diversité, animés de bonnes intentions, d'un bon état d'esprit. Mais ça ne fait pas système. Et je me sentais très sincèrement seul, poussé comme ça dans une espèce d'horizon un peu improbable. Et vous savez, une campagne, c'est d'une rudesse terrible, mais en même temps, il faut du fond, il faut de la forme, il faut une équipe, il faut des gens pour monter au créneau avec vous, il faut couvrir tous les champs. Bon. Et à un moment ou à un autre, la mécanique me déplaçait, enfin la dynamique, pardon, me dépassait. Et dans un monde qui est déjà un peu désespéré, entretenir cet espoir, entretenir cette promesse, sans être capable peut-être d'aller jusqu'au bout, parce que certains sont habités par ça depuis longtemps, ont préparé le terrain. Moi, j'étais un peu projeté à mon corps défendant dans cette perspective. J'y ai beaucoup réfléchi. C'est une décision, honnêtement, je ne peux pas en rajouter, très douloureuse à prendre.
Douloureuse ?
Oui, parce que tous les jours, de la même manière qu'en amont, tous les jours, j'avais des gens qui me demandaient de me présenter en me disant « donnez-nous une autre issue pour manifester notre espoir ou notre désespoir ». Et en revanche, tous les jours, j'ai des gens qui me disent « mais on ne sait plus pour qui voter ».
Aujourd'hui encore ?
Oui.
On vous sollicite, on vous arrête dans la rue, on vous demande, reproche d'avoir renoncé ?
Oui, c'est parfois même d'ailleurs assez sévère. Parfois, c'est très compréhensif, mais c'était une décision, je pense, responsable, parce que seul moi, je sais si j'étais en mesure de satisfaire cette attente qui convergeait pour des raisons rationnelles et parfois des raisons irrationnelles, parce qu'on a parfois tendance à surestimer vos capacités. Et je pense que c'était une attitude de sagesse et de respect vis-à-vis de ces personnes.
Le premier adverbe que vous avez employé, Nicolas Hulot, c'est psychologiquement. J'étais psychologiquement pas prêt à affronter une situation...
C'est énorme. Je veux dire, enfin, moi, j'ai conscience que c'est énorme. J'ai vu ce que c'était que la fonction présidentielle, indépendamment de la campagne elle-même. Oui. Je connais l'état du pays, je connais l'état de l'Europe, je connais l'état du monde. Nous sommes quasiment dans une situation de guerre, avec un pays qui est fragmenté dans ses communautarismes, avec... voilà. Et donc, vouloir prétendre aujourd'hui exercer les plus hautes fonctions, je suis moi-même très étonné qu'il y ait autant de candidats.
Ben oui, il y en a une quarantaine.
Oui, donc tant mieux pour la démocratie.
Au moins, et
personnellement,
on peut juger objectivement. Et sans vous flatter qu'il y en a des moins armés que vous
dans le lot. Si j'avais eu le temps de transformer une aventure individuelle dans une aventure collective, j'ai commencé à le faire, mais j'étais pris de court. Et pourquoi est-ce que j'ai précipité ma décision ? C'est qu'à un moment, la législation vous oblige à fonder un micro-parti. Mmh. Il y a un temps pour cela. Il fallait que je le fasse d'une manière un peu précipitée.
Et
après, accepter des dons de personnalité. Donc après, je ne pouvais plus faire machine arrière. Mais il aurait fallu pour ça que j'ai, comment dire, une véritable équipe des hommes, des femmes, de gauche, de droite, du centre, et se mettre d'accord sur ce que j'appelle des communs, des choses sur lesquelles on aurait pu monter ensemble, non pas contre, mais pour, et se battre d'abord sur des idées, sur des valeurs, sur des solutions. D'ailleurs, ça ne m'empêchera pas de le faire, parce que je pense qu'avant de voter pour des hommes ou pour des femmes, il faut qu'on se mette d'accord sur les solutions, sur les idées, sur le diagnostic. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en colère quand on fait un mauvais diagnostic, par exemple, notamment sur le climat, parce que comment y apporter des bonnes solutions ? Et puis sur des valeurs, il y a des mots, à mon avis, qui ne seront jamais employés dans cette campagne. Humilité, diversité, solidarité, dignité. Voilà. C'est d'abord sur cela qu'il faut se rassembler. J'aurais aimé, avant de pouvoir prendre une décision, rassembler des hommes et des femmes sur cette perspective. J'étais pris de court.
Un mot encore sur votre décision, Nicolas Hulot, et puis après la revue de presse, on parlera d'autres sujets. Il y a notamment cette pétition que la Fondation Nicolas Hulot lance contre le traité de libre-échange avec le Canada. Mais un mot, il s'est dit au moment de votre renoncement qu'il y avait des boules puantes qui se préparaient contre vous. Vous avez eu peur d'une campagne de calomnie qui aurait pu se
mettre
en place.
Mais c'est pour ça aussi, je vous dis psychologiquement, je pense que tous les coups auraient été permis. J'étais plus dans une perspective d'une campagne de témoignage. Je voyais bien moi-même dans les quelques sondages que les choses pouvaient prendre une certaine ampleur. Et pour faire face à tout cela, y compris les coups les plus imprévisibles qui n'auraient pas manqué de se préparer, il ne faut pas être tout seul. Voilà. Et il faut se sentir une équipe. Je ne dis pas que j'étais seul. J'étais seul en pointe, j'étais seul devant, j'étais seul pour monter au créneau. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais, poussé, encore une fois, par une multitude de gens extraordinaires. J'ai pas eu envie de les décevoir, voilà.
Nicolas Hulot, invité de France Inter ce matin. Les questions des auditeurs arrivent au 01 45 24 7000. Ce sera dans quelques minutes, il est 8h32.